France Culture.
Le journal est signé Adrien Toffolet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les mêmes scènes de foule affamée à Gaza à l'occasion de la seconde distribution aujourd'hui d'aide alimentaire dans l'enclave palestinienne. La Fondation humanitaire pour Gaza qui dirige les opérations assure avoir livré l'équivalent d'un million de repas entre mouvements de foule sous les gaz lacrymogènes. Dans ce journal également, la Syrie qui tisse de nouveaux liens économiques avec les États-Unis alors que dans le nord du pays, des centaines de milliers de déplacés continuent de rentrer chez eux. Le dossier de ce journal est consacré au retour difficile des Kurdes d'Irpin. En France, nous reviendrons sur la suppression des zones à faible émission votée hier soir par l'Assemblée nationale, dispositif qui a pourtant montré son impact sur la pollution de l'air. Et puis les dépenses liées aux avantages des anciens premiers ministres ont augmenté, plus 23% en deux ans, mais pas question de toucher au dispositif, dit François Bayrou. La nouvelle trêve entre le Hamas et Israël se fait attendre, mais les négociations avancent, à en croire les dernières déclarations des deux côtés. D'après Reuters, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'annoncer aux familles d'otages avoir accepté la proposition de cesser le feu présentée par l'émissaire spécial américain. Information en attente d'annonce officielle par Israël. Le Hamas, quant à lui, a annoncé cet après-midi étudier cette même proposition, et ce malgré l'annonce ce matin par le gouvernement israélien de la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupées. Pendant ce temps, l'aide humanitaire pénètre à nouveau dans la bande de Gaza. Les images de chaos avaient choqué le monde entier mardi, des milliers de Palestiniens se jetant sur toutes les rations mises à disposition, sans contrôle ni organisation efficace par la Fondation humanitaire de Gaza. Aujourd'hui, une deuxième distribution a été organisée par l'agence qui a le soutien d'Israël et les États-Unis. L'équivalent d'un million de repas distribués, mais pas de quoi soulager la famine subie par les Gazaouis. Témoignage rassemblé par Noé Pignède et Étienne Monin.
Sur les quelques images qui circulent sur les réseaux sociaux, les habitants courent sur la route sous un soleil de plomb pour aller vers le nouveau point de distribution qui a ouvert aujourd'hui dans le centre de l'enclave. Mais visiblement, ce nouveau système humanitaire est plus une épreuve qu'une délivrance pour Omar qui revient.
On nous a donné une heure pour aller chercher de la nourriture, on est arrivé un peu en avance et c'était déjà le chaos. Ce sont les mêmes personnes qui nous donnent à manger et qui nous tirent dessus. C'est de la nourriture qui est trempée dans le sang. Avec mon fils, on a risqué nos vies pour avoir à manger, ce n'est pas une vie.
Près du site de distribution, des images montrent un mélange des genres. La société américaine de sécurité fait du maintien de l'ordre en jetant des grenades lacrymogènes sur des Palestiniens qui protestent contre les barrières. Le système est pourtant devenu la seule ressource. Les quelques camions que les Nations Unies parviennent à faire passer ont subi une série de pillages provoqués par la faim et le manque. Ce vieillard porte un vieux sac de jute noire sur le dos qu'il a rempli dans le site de distribution.
C'est inhumain ce qu'on vit. Moi, avant, je faisais pousser ma nourriture, je cultivais la terre. J'ai traversé tout Gaza pour venir ici. Ça fait 15 jours que je n'ai pas mangé un morceau de pain. J'arrive à peine à parler.
Aujourd'hui, 3 sites étaient ouverts au sud et au centre de l'enclave.
L'attitude des autorités israéliennes qui poursuit ces frappes meurtrières contrarie en tout cas de plus en plus la communauté internationale. Une semaine après l'annonce par l'Union européenne de la révision de son accord commercial avec Israël datant de 1995, l'Irlande franchit un pas inédit au sein de l'UE. Dublin vient de présenter un projet de loi visant à interdire l'importation de biens en provenance des colonies israéliennes illégales en territoire palestinien. Les explications de Clémence Pénard.
Un projet de loi proposé dès 2018 en Irlande. L'interdiction aujourd'hui ne concernerait qu'une poignée de produits en provenance des territoires occupés, quelques oranges, dattes et olives, comme le déplore l'avocat Gary Daly.
Le gouvernement veut supprimer toute référence aux services, limitant ainsi la loi à quelques biens seulement. Ils prétendront alors avoir adopté la loi sur les territoires occupés, mais en réalité elle sera vide de sens et inefficace. Ce n'est qu'un compromis bancal acceptable pour les Américains et les Israéliens.
Car entre 2020 et 2024, les échanges commerciaux entre l'Irlande et les territoires occupés par Israël ont représenté moins de 700 000 euros. Une mesure largement symbolique donc, mais qui ferait tout de même de l'Irlande le premier pays européen à restreindre le commerce avec les colonies israéliennes. Un geste à forte portée politique selon le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Harris.
À bien des égards, c'est une mesure modeste, mais essentielle pour accentuer la pression en faveur d'un cessez-le-feu.
feu, car l'ampleur de la catastrophe humanitaire est presque inimaginable et constitue un crime de guerre évident. Si l'Irlande, ce petit État d'Europe, devient l'un des tout premiers pays, probablement le premier du monde occidental, à légiférer en ce sens, j'espère que cela inspirera d'autres pays européens à nous rejoindre.
Simon Harris en est conscient, seule une action collective de l'Union européenne aurait un véritable poids. En attendant, l'Irlande entend montrer l'exemple.
À la situation en Cisjordanie et à Gaza s'ajoutent les autres fronts toujours sous tension avec les voisins. Le Liban où Israël poursuit régulièrement ses frappes et puis la Syrie où s'est rendu aujourd'hui un émissaire américain pour plaider la mise en place d'un pacte de non-agression entre Israël et la Syrie. Depuis la chute de Bachar al-Assad, les États-Unis tissent de nouveaux liens avec le pouvoir en place. Un accord énergétique pour 7 milliards de dollars a d'ailleurs été signé aujourd'hui avec un consortium d'entreprises américaines, Qatari et Turc. Le drapeau américain a même été hissé pour la première fois dans le pays depuis 2012. Dans le nord de la Syrie, pendant ce temps, les déplacés commencent à revenir à Afrin, théâtre de violentes exactions lors de l'offensive turque contre les factions armées kurdes en 2018. Plus de la moitié des 400 000 déplacés au total seraient déjà rentrés chez eux, mais non sans difficulté. Ils doivent faire face à des pillages, leurs maisons occupées et des factions pro-turcs accusés de nombreux crimes de guerre sont présentes. Reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Abdullah, 55 ans, ne compte plus le nombre de fois où il est venu ici, les clés de sa maison en main. Une jolie bâtisse en pierre, un petit chemin de terre et cette vue imprenable sur la vallée d'Olivier qui, après des années d'exil, lui avait tant manqué.
Ma maison est juste là, mais je ne peux plus y accéder car une famille me l'a volée. Il y a deux jours, je leur ai demandé de partir, ils ont refusé. C'est la maison de mon père, je suis né et j'ai grandi dans cette maison. C'est vraiment très difficile pour moi. Allons-y, partons.
Abdullah pleure, jette un dernier regard à sa maison, puis à nouveau fait demi-tour. En attendant, il doit louer un appartement, $50 par mois, soit la moitié de son salaire de professeur. Il fait partie des centaines de milliers de Kurdes d'Afrin qui, face à la violence de l'offensive turque en 2018, ont dû fuir. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, ces derniers essaient de revenir, mais entre-temps, de nombreux déplacés d'autres villes en Syrie s'y sont installés et la population, autrefois composée à 95% de Kurdes, s'est transformée.
Beaucoup de mes amis refusent de revenir ici, car il y a désormais d'autres types de personnes qui sont arrivées. Pour dire clairement les choses, il y a désormais les Kurdes et les Arabes, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Moi, par exemple, je ne jeûne pas, je ne prie pas, ils me demandent tous « Mais pourquoi ? Tu n'es pas musulman ?» Non, je ne suis pas musulman. C'est une situation compliquée, vraiment.
Pour Abdullah et les autres Kurdes d'Afrin, il y a donc ces maisons occupées. Il y a aussi le souvenir de la guerre, des pillages, des détentions. Il y a ces inoubliables exactions. Les milices pro-Turquie accusées d'avoir commis ces crimes de guerre ont au lendemain de la chute du régime été chassées, assure Abu Kouteina, membre de la sécurité générale du nouveau gouvernement.
Toutes ces factions ont été envoyées loin d'ici. Ils n'ont plus d'interaction avec les habitants. Désormais, seules les forces de sécurité du nouveau gouvernement sont déployées dans la région.
Abu Kouteina insiste, ici, non, plus de miliciens pro-Turquie. Pourtant, ailleurs, près d'Afrin, les témoignages de familles kurdes se multiplient. Micro éteint, plusieurs racontent les arrestations arbitraires, les taxes sur les rendements agricoles, les menaces sur les checkpoints. Azad Osman, membre du conseil local de la ville.
Prenons un exemple. La milice Al-Sharqiya contrôle une zone non loin d'ici. Là-bas, lorsqu'une famille de déplacés accepte de rendre la maison dans laquelle ils habitaient au propriétaire, c'est la milice qui récupère la clé. Ils la remettent au propriétaire seulement s'ils acceptent de payer une grosse somme d'argent.
Azad poursuit, les milices proches d'Ankara, quelques 150 000 hommes contrôleraient encore certains villages alentours, ce qui dissuade de nombreuses familles kurdes de rentrer chez elles.
C'est l'un des principaux défis à relever. Nous en avons discuté avec la sécurité générale, mais elle n'a toujours pas trouvé de solution à ce problème. Jusqu'à présent, ils sont trop faibles.
Depuis la chute du régime, le nouveau gouvernement a officiellement repris possession de la région jusqu'ici contrôlée par la Turquie. Mais Afrin, le centre de commandement militaire, est encore recouvert de drapeaux turcs. Ankara dispose toujours sur place d'un gouverneur, verse les salaires des employés du service public, des médecins, des professeurs.
En réalité, le gouverneur syrien n'a que peu de pouvoir ici, mais nous ne pouvons pas en parler. Nous souhaitons que la Turquie nous traite comme des partenaires, qu'ils nous aident à développer cette région. Le problème, ce sont ces factions qui nous ont détruits.
En février, les milices pro-Turquie ont officiellement été dissoutes pour se fondre au sein du ministère de la Défense. Micro éteint, l'un des combattants qui a souhaité rester anonyme nous confiera que la Turquie a finalement fait pression pour que leur faction reste constituée au sein de la nouvelle armée.
Manon Chaplin en Syrie. C'est la semaine des cérémonies de remise des diplômes en ce moment aux États-Unis et notamment à Harvard, la prestigieuse université américaine dans le viseur de l'administration Trump qui lui reproche de laisser l'antisémitisme prospérer sur son campus. Le président américain veut notamment lui interdire d'accueillir des étudiants étrangers. Les élèves, eux, sont dans l'expectative pour l'avenir. Sébastien Paour a rencontré l'un des diplômés de cette promotion 2025.
Jean ne donne que son prénom, comme les rares élèves qui acceptent de s'exprimer. L'étudiant belge vient d'être diplômé de la Harvard Kennedy School, la fac de sciences politiques de Harvard, après un programme de 2 ans. Sentiment mitigé à la sortie de la cérémonie, entouré de sa famille.
C'est un peu un mix de satisfaction du devoir accompli et puis un peu d'appréhension au vu de l'actualité politique et d'Harvard qui est un petit peu au centre du débat.
Il a apprécié les allusions au bras de fer avec la Maison Blanche dans le discours aux diplômés.
Nous, on a eu un discours de Mme Amanpour, qui est une journaliste relativement connue de CNN, et qui a fait ça très correctement avec un message que je qualifierais d'optimiste. C'est un message d'espoir.
Jean se dit relativement serein. Il a déjà trouvé un premier emploi.
Je pars à Chicago. Je vais travailler pour une société pharmaceutique. Et donc, c'est ce qui se profile pour l'instant, en espérant que les considérations de visa et d'immigration ne m'en empêchent pas.
Un diplôme de Harvard est et restera prestigieux, d'après lui, malgré les attaques de Trump. Au pire, dit-il, je quitterai le pays pour trouver du travail.
C'était une mesure emblématique de la loi climat de 2021. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté la suppression des ZFE, les zones à faible émission, mises en place progressivement depuis 2019, afin de limiter la circulation des voitures les plus polluantes, donc de limiter les émissions de particules fines. Une mesure environnementale forte qui a très vite été contestée par certains corps de métier, car excluant de fait les véhicules les plus polluants des grandes villes. Contestation portée au niveau politique par la droite, l'extrême droite ainsi que la France insoumise qui ont donc voté à l'unisson hier pour faire tomber le dispositif. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Adrien.
On reviendra après sur l'argument social défendu par les opposants aux ZFE. L'argument sanitaire n'a en tout cas pas fait le poids alors que les études ont largement démontré les bénéfices de ces zones sur la qualité de l'air.
Oui, déjà en 2013, la pollution de l'air extérieur était classée cancérigène avérée par le CIRC, le centre de recherche indépendant basé à Lyon, dont les experts internationaux pointaient le lien direct avec le cancer du poumon. Bien plus récemment, en 2021, le projet ELAPS, mené par l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, a étudié 22 cohortes dans 11 pays européens, 28 millions de personnes tout de même. Pour chacune, on connaissait les données de santé et l'équipe a superposé une carte de la pollution à 100 mètres près, avec les expositions des personnes aux particules fines et au dioxyde d'azote, les deux principaux polluants. Et l'équipe a pu montrer que quand on augmente de 5 microgrammes par mètre cube les particules fines qu'on respire sur un an, eh bien le risque de mortalité va doubler. Après cette étude, en fait, l'Europe a revu ses seuils de référence à la baisse, divisé par 2 les seuils autorisés pour les particules fines et divisé par 4 nos expositions recommandées au dioxyde d'azote. Or, on est quand même loin de respecter ces valeurs.
Récemment, on a toutefois pu observer 2 moments où la pollution a baissé, la mise en place des ZFE et le Covid, bien entendu.
D'ailleurs, Santé publique France a mesuré pendant l'été 2021 l'effet de l'interdiction de circuler qui venait de se produire pendant le confinement. Et l'agence calcule qu'on a évité sur cette période 2300 morts imputables sinon aux particules fines et 1200 décès liés directement au dioxyde d'azote. Moralité, les zones ZFE font vraiment baisser les émissions et elles sauvent des vies. 40 000 en France emportées sinon par des AVC, des infarctus, le cancer du poumon, sans parler de l'asthme et du diabète. bête. D'ailleurs, nos voisins l'ont compris. Il existe plus de 300 zones à faible émission dans les autres villes européennes.
Tara Schlegel, ces zones sont en tout cas, pour ses opposants, l'exemple parfait de ce que l'on appelle l'écologie punitive. Depuis la Nouvelle-Calédonie où elle se trouve, Marine Le Pen a salué la suppression de cette mesure, responsable, dit-elle, d'un apartheid social, notamment pour les plus modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Fin de citation. Cet argument, repris également à droite et par les insoumis, n'est pas totalement inaudible chez les plus farouches défenseurs des ZFE. Il faut impérativement ce dispositif et avec un accompagnement des plus modestes de la part de l'État, estime Dan Lehr, adjoint au maire de Paris en charge du climat et de la transition écologique.
Les ZFE sont utiles, sont efficaces, elles ont fait leurs preuves, mais elles doivent être rétablies avec des aides massives pour aider justement ces ménages modestes à changer de véhicule. L'État a supprimé toutes les aides à la conversion et en rendant les ZFE finalement inopérantes. À Paris, nous avons estimé les besoins en termes d'aide. Par exemple, pour les propriétaires des véhicules critère 3, c'est 500 millions d'euros pour les aider à changer de véhicule. C'est ça qu'il faut faire pour rendre ces ZFE efficaces. Et c'est vraiment l'inertie de l'État qui a provoqué finalement cette situation en rendant les ZFE injustes d'une certaine manière socialement. Ce qui est injuste socialement et ce qui est punitif, ce sont les cadastres supplémentaires. Par exemple, plus 30% de cadastres pour les enfants qui vivent au bord du boulevard périphérique. C'est ça qui est injuste socialement. Et finalement, maintenir le statu quo, c'est ça qui est très punitif pour la santé publique. Et si le gouvernement ne se bouge pas, la France sera de nouveau condamnée pour son inaction sur la question de la qualité de l'air. Donc c'est ça qui va arriver dans les prochains mois.
Dan Lehr, adjoint à la maire de Paris, au micro de Benjamin Recouvreur. Ces prochaines semaines, le gouvernement va continuer à plancher sur le projet de budget 2026. Budget synonyme d'effort pour les Français, avertit François Bayrou il y a quelques jours. Objectif, 40 milliards d'euros d'économie l'année prochaine et faire repasser le déficit sous la barre des 3% du PIB en 2029. Mais toutes les pistes sont-elles envisagées par le gouvernement ? En janvier dernier, le député RN du Nord, Mathieu Marchiot, a interpellé Bercy sur le coût des avantages des anciens premiers ministres. Bonsoir Mélanie Kuzelevitch.
Bonsoir.
La réponse est parue il y a quelques jours au journal officiel. Les dépenses liées aux ex-premiers ministres ont augmenté.
Oui, en deux ans, les dépenses ont même bondi de plus de 23%. En 2024, l'enveloppe dédiée aux anciens locataires de Matignon frôle 1,6 million d'euros contre 1,28 million en 2022. Cette hausse mécanique s'explique par l'arrivée de trois nouveaux membres dans ce cercle très fermé, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier. Depuis un décret de 2019, les ex-chefs du gouvernement peuvent bénéficier d'un chauffeur et d'une voiture à vie, mais aussi d'un agent pour leur secrétariat particulier pour une durée maximale de 10 ans et à condition d'avoir moins de 68 ans. Sur la première marche du podium se hisse Dominique de Villepin avec environ 207 000 euros de dépenses, dont 198 000 euros pour le personnel et 8 000 euros pour la voiture. En deuxième position, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre sous François Hollande, a lui utilisé près de 198 000 euros. Arrive ensuite Jean-Pierre Raffarin, Lionel Jospin, Edith Cresson ou encore François Fillon, avec des dépenses entre 149 000 et 158 000 euros. Pas d'argent déboursé, en revanche, pour Laurent Fabius, Édouard Philippe et Jean Castex, tous occupant l'année dernière des postes avec les mêmes avantages. À cette heure, modifier ce dispositif de soutien aux anciens chefs du gouvernement, ce n'est pas envisagé, peut-on lire dans le journal officiel. Ça ne représente qu'une très faible part du budget des services du Premier ministre et les avantages ont déjà été réduits il y a 6 ans, justifie Matignon. Pourtant, la question ne va pas tarder, sans doute, à revenir sur la table pour le budget 2026. En janvier dernier, les sénateurs ont voté un amendement pour la suppression de ces avantages. Retoqués à l'Assemblée, ils ont promis de recommencer.
Mélanie Kuzelevitch, c'était un non ferme et sans concession. Le 29 mai 2005, 55% des Français s'opposaient à la ratification du traité sur la Constitution européenne de 2005. À l'issue d'un référendum qui a marqué les esprits, notamment chez les opposants qui ont vu leur vote contourné par l'adoption 2 ans plus tard du traité de Lisbonne. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été perturbés par cette grande initiative populaire qu'a été le référendum. Plus aucun politique depuis n'a pris le risque de retenter l'expérience, comme l'analyse le politologue Pascal Perrineau.
Le peuple ayant dit non, la classe politique a été, dans son immense majorité, complètement tétanisée par ce non et n'a pas osé depuis réutiliser l'arme référendaire, qui pourtant est une arme qui a été utilisée par le général de Gaulle, par le président Pompidou, par François Mitterrand, par Jacques Chirac. Et depuis, au fond, l'échec de ce référendum de 2005, il n'y a jamais eu usage du référendum. Et cela, je crois, est largement lié au caractère massif du non. Les politiques ayant aujourd'hui peur, au fond, que tout référendum se traduise par un rejet du pouvoir qui se permettrait de poser une question au corps électoral. Alors, on reparle certes du référendum, comme on le fait à peu près tous les 2 ou 3 ans, mais on sent bien qu'il y a à gauche, à droite et ailleurs une timidité à réutiliser cette arme qui est pourtant une arme fondamentale de l'expression de la souveraineté populaire sous la Ve République.
Pascal Perrineau, joint par Louise Cinquin. Quelques mots du temps de demain, très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les températures estivales jusqu'à 33 à Toulouse l'après-midi.